Alors, on va prier et après quoi nous allons débuter. Seigneur, nous te rendons grâce pour ce moment que tu nous donnes, pour un moment encore riche de ta présence, de ton intervention et de tes instructions à notre égard. Nous te demandons, Seigneur, que tu ouvres notre entendement à ta parole, parce que nous voulons saisir ce que tu as préparé pour nous. Nous voulons aussi, Seigneur, calquer nos agissements, notre vision, notre façon de faire, notre façon d'être sur les préceptes que tu nous enseignes et sur les plans et les desseins que tu avais pour nous. Merci Seigneur parce que cette journée n'est pas le fruit du hasard, cette journée n'est pas tout simplement la conséquence d'une série de choses fortuites, mais c'est une journée qui a été préparée pour toi, par toi. De toute éternité. Une journée dans laquelle tu veux te révéler à nous, dans laquelle tu veux t'approcher de nous et dans laquelle, Seigneur, tu veux nous attirer à toi. Alors nous recevons pleinement ta parole ce matin. Nous la déclarons comme étant vraie, véridique et toujours effective encore aujourd'hui et pour le restant de l'éternité. Alors, Seigneur, nous demandons que tu sois avec nous. Bénis ma sœur, bénis mon frère, accorde-nous un agréable moment dans l'étude et dans le partage de ta parole. Nous t'avons prié dans le précieux nom de Jésus. Amen. Alors bonjour à tous encore une fois et bienvenue à cette étude ou à cette bénédiction matinale du mardi 23 février 2021. Deux passages qu'on va étudier ce matin. Tout d'abord notre passage on va dire clé, dans Luc au chapitre 4, le verset 18 et le verset 19. Puis, on va aller lire dans Actes au chapitre 10, les versets 34 et 35. Donc, pour ceux qui prennent des notes, Luc 4, 18 et 19, vous pouvez déjà retenir cette page-là. Et aussi, tourner dans Actes 10, le verset 34 et 35. Alors, je lis tout d'abord le passage dans Luc. Luc 4, le verset 18 et 19. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Et la partie de phrase importante, pour publier une année de grâce du Seigneur. Et depuis dimanche, on étudie ce terme grâce, non pas le terme charis en grec, qu'on voit régulièrement, et qui est la définition, disons, plus commune de la grâce, mais si le terme grâce qu'on utilise en français vient plutôt du terme dektos, D-E-K-T-O-S, je répète, D-E-K-T-O-S, excusez-moi. Donc, dektos, qu'on retrouve cinq fois. Et hier, on a étudié donc les deux premières allusions, toujours dans le chapitre 4 de Luc, qu'on avait vu donc dans le verset 19, dans le verset 24, où dektos était repris. Et la traduction dans une langue contemporaine, et particulièrement dans nos versions de la Bible version Louis II, le mot qui est utilisé, c'est le terme hier reçu, et aujourd'hui le terme agréable. Et je vous expose dans le passage qui nous sert de base pour aujourd'hui, Actes chapitre 10, le verset 34-35, qui nous disent « Alors Pierre, ouvrant la bouche, dit « En vérité, je reconnais que Dieu ne fait point exception de personne. » Mais qu'en toute nation, celui qui le craint et qui pratique la justice lui est agréable. » Je répète les deux versets. Alors Pierre, ouvrant la bouche, dit « En vérité, je reconnais que Dieu ne fait point exception de personne, mais qu'en toute nation, celui qui le craint et qui pratique la justice lui est agréable. » C'est une phrase qui est tirée d'une rencontre toute particulière, la rencontre de Paul avec Corneille, et je dirais la rencontre de Pierre avec Corneille, et je dirais même plus la rencontre de Pierre avec le plan de Dieu par rapport au peuple non-juif. C'est une première fois où Pierre va être confronté, et j'ai l'impression que je vais l'avoir difficile aujourd'hui, entre Paul et Pierre. C'est une première fois où Pierre est confronté à l'effet de l'Évangile et au plan de salut que Dieu va répandre non seulement sur la population juive, sur le peuple juif, mais aussi par extension sur tout païen. Et quand on parle de païen, on parle de personne qui n'est non juive. Donc tout païen, pécheur lui aussi, repentant, qui se tourne vers Christ comme son Seigneur et son Sauveur. Et dans cette rencontre où Corneille va le faire venir, Pierre va se rendre compte que la même manifestation de l'Esprit-Saint qui s'était passée le jour de la Pentecôte survient encore sur les païens. Il va découvrir que le plan du Seigneur était non seulement de sauver les Juifs, mais aussi l'ensemble de tous ceux qui reconnaîtraient Jésus comme Sauveur et comme Seigneur. Et dans cette conversation donc avec Corneille, il va avoir cette phrase qui dit « En vérité, je reconnais que Dieu ne fait exception de personne, donc que Dieu ne néglige personne, que Dieu ne rejette personne, mais qu'en toute nation, celui qui le craint et qui pratique la justice lui est agréable. » Donc celui qui craint le Seigneur et qui pratique la justice lui est agréable. Et agréable est donc le terme dektos que nous avons vu depuis dimanche. Donc ici, dektos, grâce, comme étant agréable à Dieu. Et on va voir cette déclinaison, cette petite explication de ce terme agréable qui va nous permettre probablement de mieux saisir une partie de ce que Dieu fait en nous et de ce qu'il désire de nous. Donc, première chose, quand on parle du terme agréable, c'est une confrontation entre ce qui est bon et ce qui est mauvais. Lorsque je déclare qu'une chose est agréable, c'est que je trouve cette chose bonne. Lorsque le Seigneur déclare que quelqu'un lui est agréable, c'est donc qu'il déclare que cette personne est bonne. Et pour être bon aux yeux de Dieu, il faut donc que le processus de salut ait été enclenché. Il faut que la nouvelle naissance ait donc été enclenchée, que le péché ait été reconnu, a été confessé, qu'un cœur repentant se soit présenté devant Dieu et que la Seigneurie de Christ ait été acclamée, proclamée, déclarée par le pécheur repentant. Et ce faisant, étant agréable à Dieu, nous sommes donc déclarés comme étant bons. Autrefois, nous étions mauvais par nos penchants, par nos péchés, par notre iniquité, par la poursuite très égoïste de la vie, par la quête très pécheresse et inique qui était de nature avec ce que nous sommes, faisait en sorte qu'on était déclaré mauvais devant Dieu. Le criminel est mauvais, celui qui est juste est bon. Donc, quand on parle d'être agréable à Dieu ce matin, on parle donc d'être bon devant Dieu. Et la question pour toi et pour moi, est-ce que nous sommes bons devant Dieu? Est-ce que lorsque Dieu te regarde, on disait hier que le Seigneur, lorsqu'il va nous recevoir, il va nous appeler comme bons et fidèles serviteurs. Et on se rappelle que la grâce de Dieu de laquelle on parle cette semaine, c'est cette capacité à servir Dieu, ce désir et cet engagement à servir Dieu. Puisqu'on parle du jubilé où l'esclave pouvait prendre ses aises et quitter son maître, ou décider de rester ad vitam aeternam dans la maison de son maître et le servir pour le restant de ses jours. Et c'est là où on parle de cette année de jubilé en tant qu'Église, mais aussi tout simplement dans le concept biblique, prendre un engagement envers Dieu. Et cet engagement, comme on l'a vu hier, est un engagement à servir et à être utile et à être profitable pour Dieu. Donc, quand le Seigneur te regarde, peut-il te dire que tu es un bon serviteur? Peut-il te dire que tu es un fidèle serviteur? On sait que c'est ces paroles qui vont nous accueillir lorsqu'on va aller dans l'éternité. C'est les paroles qu'on veut entendre. C'est ces paroles de Christ qui nous regarde et qui nous dit, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. On ne veut pas être exclu, on ne veut pas être rejeté, on ne veut pas être renvoyé de la présence de Dieu. On veut être accueilli par la présence de Dieu. Mais pour être accueilli, Dieu ne peut pas se contredire. Il ne peut pas accueillir quelqu'un qui ne lui est pas bon. Il ne peut pas accueillir quelqu'un qui lui semble mauvais ou méchant. Parfois, la traduction de mauvais est aussi le terme méchant. Est-ce que devant Dieu, nous sommes, oui ou non, de bons et de fidèles serviteurs? C'est une question que je pose régulièrement à Dieu à mon égard. Je ne veux pas prendre de risques, ne sachant quand je vais me retrouver face à face avec mon Seigneur. Je veux savoir, ici même, ici bas, dans ce que je suis en train de faire, est-ce que je suis agréable à Dieu, oui ou non? Je ne veux pas prendre un risque de me présenter dans l'éternité en ayant vécu simplement en palpant les choses, en espérant que je veux m'assurer de calquer ma vie sur la parole de Dieu, sur les préceptes de Dieu, pour être effectivement trouvé bon et non pas mauvais, pour être trouvé bon et bien entendu non pas méchant. Deuxième terme, lorsqu'on parle d'agréable, on parle de quelque chose qui est plaisant versus quelque chose qui est déplaisant. Si je peux être agréable à Dieu, ça veut donc dire que je peux être désagréable à Dieu. Ça va de pair. Si effectivement nous sommes appelés à être agréables au Seigneur, dans notre service, dans notre profession de foi, dans notre vie de tous les jours, si nous pouvons lui être agréables, ça veut donc dire que nous avons tout à fait le potentiel et tout à fait la liberté de lui être aussi désagréable. Liberté de lui être désagréable, ça ne veut pas dire qu'il te permet de le faire. Ça veut dire que tu as l'habileté pour le faire, même si lui ne met pas son sceau d'approbation là-dessus. Dieu ne va pas approuver le fait que tu lui es désagréable, mais il te laisse le choix, il te laisse le droit dans tes décisions, dans tes actions, dans tes paroles, dans ta façon d'être agréable ou non à Dieu. Alors la grande question c'est, est-ce que quand Dieu me regarde, est-ce qu'il prend plaisir à ma vie? Est-ce qu'il prend plaisir à ce que je fais de ma vie? Est-ce qu'il prend plaisir aux actions que je pose? Est-ce qu'il prend plaisir à l'orientation que je donne à ma vie? Est-ce que Dieu prend plaisir aux décisions que je prends? Depuis le début de la pandémie, on a tous eu des ajustements à faire. On a tous eu des décisions à prendre. Et puis, chacun d'entre nous, on a été libre de prendre ces décisions. Mais la question qui doit revenir, c'est, Seigneur, lorsque je me positionne de telle façon, te suis-je agréable ou non? Lorsque je m'oriente, lorsque j'oriente mon existence et ma vie vers telle destination, est-ce que Seigneur, je te suis agréable ou non? Très souvent, je parle avec des couples qui vont se marier et ils me disent, pasteur, on aimerait que tu pries qu'on soit dans la volonté de Dieu. Mais ce questionnement-là d'être dans la volonté de Dieu devrait précéder la fréquentation. Ça devrait être une quête perpétuelle, à tous les jours, permanente, dont avant le mariage, de dire, Seigneur, est-ce que je suis là où tu me veux? Est-ce que je suis en train de faire ce que tu veux que je fasse? Est-ce que je suis en train de vivre comme tu veux que je vive? Est-ce que je suis en train de m'unir, de m'associer avec ceux avec qui tu veux que je m'associe? Maintenant, tu vas me dire, ah, mais peut-être que je me suis marié, puis je n'étais pas dans la volonté de Dieu. Ça se pourrait qu'effectivement, tu aies pris tes décisions par toi-même et qu'après ça, tu aies demandé à Dieu de bénir la décision que toi, tu as choisie. Mais le mariage, c'est ça, en fait. Le mariage, c'est de venir devant le Seigneur en disant, Seigneur, voici la personne avec qui j'ai décidé de me marier, voici la personne avec qui j'ai décidé de vivre. Et cette décision-là, je la scelle, je la lis, je la cadenasse devant toi. Donc, c'est une décision que nous prenons en tant qu'humain, librement, consciemment, délibérément, que nous venons par la suite présenter à Dieu en disant « Voici l'union que nous voulons faire et nous te demandons de sceller cette union. » Et Dieu prend acte de notre décision et par la suite, donc, il scelle l'homme et une femme, l'homme et la femme deviennent une seule chair devant le Seigneur et il va dire par la suite que l'homme ne sépare point ce que Dieu a uni. Donc cette décision-là, malheureusement, il y a des gens qui réfléchissent à savoir est-ce que je suis dans la volonté de Dieu trop tard? Est-ce que je m'oriente? Est-ce que je suis dans le temps? Est-ce que je suis dans les objectifs que Dieu a? Et pour un couple, on devrait avoir ce même questionnement. Seigneur, te sommes-nous agréables dans ce que nous faisons en tant que couple, dans l'appel que tu as adressé à notre vie de couple, à notre unité que nous formons en tant que couple, sommes-nous agréables à tes yeux? Sommes-nous en train de faire en tant que couple ce que tu désires que nous fassions? Sommes-nous en train de rechercher les objectifs qui sont les tiens et non pas futilement les objectifs qui sont nôtres? Très souvent, on a des chicanes dans nos couples, on a des distances qui se créent dans nos couples pour un tas de dossiers qui ne concernent pas Dieu et qui foncièrement sont secondaires par rapport au plan de Dieu. On doit comprendre au départ que le mariage, c'est l'association de deux personnes pour mener à bien la cause de Dieu. Lorsque Dieu va créer Ève, il va dire à d'Abraham qu'il ne peut pas faire la chose toute seule, qu'il ne peut pas s'occuper du jardin tout seul, alors qu'il va lui faire une compagne. Et la compagne, c'est ce terme technique qu'on avait autrefois dans nos pays européens, on va dire, qu'on avait autrefois, qui était « je deviens un compagnon de quelqu'un, je deviens un co-ouvrier avec quelqu'un ». Et lorsque Dieu crée la compagne, Ève pour Adam, c'est donc en vue de l'œuvre qu'Adam doit faire dans le jardin d'Éden, prendre soin du jardin, et il dit « maintenant, Ève va pouvoir aider Adam dans cette œuvre-là ». Donc, le couple Adam et Ève avait un mandat. Le couple Daphné et moi avons un mandat. Il est clair, je suis le pasteur, Daphné n'est pas le pasteur. L'onction pastorale a été déversée sur ma vie, l'autorité pastorale a été déversée sur ma vie, et non pas sur le poste de mon épouse. Mais ensemble, en tant qu'unité, nous avons aussi un mandat à accomplir. Nous avons une œuvre à accomplir et elle m'aide dans l'accomplissement de cette œuvre et je l'aide dans l'accomplissement de cette œuvre commune qui est la nôtre. Donc, et la question qu'on doit se poser pour nous en tant que couple, pour moi en tant qu'individu, pour moi en tant que pasteur, dans ce que nous faisons, est-ce que nous sommes agréables à Dieu? Seigneur, dans ce que je fais individuellement, te suis-je agréable? Dans ce que nous faisons en tant qu'unité de couple, unité maritale, te sommes-nous agréables? Et plus à plus grande étendue, quand Dieu pourvoit des enfants, en tant que famille, sommes-nous en train de faire ce que Dieu veut que nous fassions? Alors, sommes-nous agréables? Sommes-nous plaisants à Dieu? Troisième terme pour agréable, c'est le terme réjouissant. Est-ce que Dieu peut se réjouir de ce que je fais pour lui? La Bible nous dit que dans le ciel, lorsqu'un pécheur se repent, il y a énormément de joie. Une joie exultante, une joie qu'on ne peut pas réprimer, une joie qu'on ne peut pas represser. Est-ce que dans le ciel, tu suscites ce genre de joie régulièrement? Est-ce que tu contribues à l'avancement du royaume de Dieu? Et l'avancement du royaume de Dieu, ça ne veut pas dire qu'une église devienne plus populaire qu'une autre, qu'une église ait de meilleurs budgets qu'une autre, qu'une église ait une meilleure présence sur Internet que d'autres, qu'une église soit plus acclamée que d'autres. Être agréable à Dieu et être une source de réjouissance pour Dieu, c'est un homme, une femme qui partage l'Évangile et qui suscite de nouveaux disciples, une église qui partage l'Évangile et qui suscite de nouveaux disciples. Est-ce que tu réjouis Dieu dans ta vie? Est-ce que tu réjouis Dieu par ce que tu fais, d'une part? Est-ce que tu réjouis Dieu par ce que tu produis, d'autre part? Qu'est-ce qui découle de toi? Est-ce qu'il y a effectivement des conversions qui découlent de toi? Est-ce qu'il y a effectivement de nouvelles naissances qui découlent de toi? Est-ce qu'il y a effectivement une repentance du pécheur qui découle de toi? Voilà comment réjouir Dieu. Donc, agréable comme réjouissant. Agréable aussi comme satisfaisant. Dieu a des plans pour ta vie. Dieu a des plans de service pour toi. Il t'a appelé à être à son service. Tu le sers, mais le sers-tu de façon satisfaisante? Vous savez, lorsque vous êtes chef d'équipe et vous demandez à quelqu'un de faire 36 choses et qu'il vous en donne simplement 18, ben il a fait 50% du travail. Et 50% du travail pour le patron, c'est insatisfaisant. Donc, lorsque toi, tu travailles pour le Seigneur, peut-il être satisfait de ton travail ou te dis-tu simplement, Dieu devra se satisfaire de ce que je vais lui donner? Est-ce que tu forces Dieu à rabaisser ses standards par rapport à ses attentes qu'il avait à ton égard, par rapport à l'investissement qu'il a fait en toi, par rapport aux dons qu'il a placés dans ta vie, par rapport au talent qu'il a placé en toi? Est-ce que tu le satisfais simplement à 50%? Est-ce que le rendement de ta vie est simplement de 50%? Lorsque tu t'attends à un rendement de 100%, lorsque tu investis en quelqu'un en souhaitant avoir un rendement de 100% et que tu n'as qu'un rendement de 50%, est-ce que tu es satisfait? Alors, est-ce que Dieu peut être satisfait? Mais de surcroît à cela, j'aimerais simplement te pousser un peu plus dans ce raisonnement-là. Lorsque tu regardes Dieu et tu lui dis, ben, il faudra que tu te contentes de cela. Bien entendu, on ne le dit pas avec une telle terminologie. On aurait trop peur de lui manquer d'égard, de lui être impoli. Mais quand nos actions, quand nos décisions de ne pas donner son 100% pour Christ, fait en sorte que nous ne produisions que 50% du rendement. Est-ce que ce n'est pas la même chose? Est-ce que ce n'est pas aussi pire ou aussi mal que de lui dire tout simplement « Je te donne 50%, contente-toi de cela. » Si dans le fin fond, je sais que je ne pousse pas à 100% pour Dieu, si dans le fin fond, je sais que je ne me donne pas complètement pour l'œuvre de Dieu et pour l'avancement de son royaume, est-ce que je peux être en train de lui dire aussi textuellement, contente-toi de ce que je te donne? C'est une façon impolie de nous approcher de Dieu. C'est une façon avec un flagrant manque d'égard envers notre Seigneur, de ne pas se donner totalement, de ne pas se livrer totalement au service de notre Seigneur. Alors, ce faisant, Dieu peut-il être satisfait? Alors, je te pose la question pour toi et je me lance la question à moi-même. Est-ce que le Seigneur est satisfait de mon travail de serviteur? Est-ce qu'il est satisfait de mon rendement de serviteur? Le serviteur qu'il va bénir, c'est celui qui a 5 talents et qui en ramène 10. Celui qui a 2 talents et qui en ramène 4. Mais celui qui a 1 talent et qui lui ramène simplement ce simple talent inutilisé et non mis à profit, le Seigneur va être fâché avec cette personne. Et la parabole des talents nous dit que le maître chasse ce mauvais serviteur, ce méchant serviteur dont la parole de Dieu nous parle. Donc, est-ce que Dieu est satisfait? De surcroît à cela, on parlait tout à l'heure, est-ce que ce n'est pas un manque d'égard envers le Seigneur de lui dire « Contente-toi de ce que je te donne » foncièrement? Lorsqu'on parle de quelque chose qui est agréable envers quelqu'un, on parle aussi de quelque chose qui est respectueux envers le Seigneur. Dans le verset que nous lisions tout à l'heure dans Actes au chapitre 10, le verset 35 va nous dire « Mais je reconnais, en vérité, je reconnais que Dieu ne fait exception de personne, mais qu'en toute nation, celui qui le craint et qui pratique la justice lui est agréable. » Celui qui le craint et qui pratique la justice lui est agréable. Celui qui craint Dieu est agréable à Dieu. Craindre Dieu dans la terminologie et dans la pensée judaïque n'est pas être terrorisé par Dieu. Il faut sortir de ce paradigme du père fouettard qui est là tout simplement pour nous taper sur la tête. Lorsqu'on parle de la crainte de Dieu, en fait, c'est un mot qui, en français, et probablement en anglais aussi, lorsqu'on parle de fear of God, c'est probablement un mot qui est un peu mal agencé pour expliquer pleinement ce que veut dire la crainte de Dieu. La crainte de Dieu, en fait, dans un terme très contemporain, voudrait dire un profond respect envers Dieu, une vénération de Dieu. Donc, dans tes paroles, dans ton service, tu peux exprimer et tu dois exprimer la crainte de Dieu. Ton service devrait démontrer tout le respect que tu voues à Dieu. J'ai déjà reçu des personnes à la maison à l'occasion, et puis c'était la bonne franquette, et j'aime ces repas bonne franquette, j'aime ces repas où mon côté italien peut-être va ressortir avec le gros plat de nouilles où tout le monde va aller se servir sa portion. Je trouve ça amusant de mettre le gros bol de pâtes, de spaghettis au centre de la table pour que tout le monde prenne sa part. C'est intéressant. Mais en même temps, c'est pas quelque chose que je fais lorsque je veux honorer ou lorsque je veux présenter tout mon respect par rapport à quelqu'un d'autre, par rapport à un événement que je veux honorer de façon particulière. Peut-être qu'on va sortir la coutellerie un peu plus fancy, un peu plus, on va dire, luxueuse. On va sortir les belles assiettes et non pas les assiettes courantes. On va sortir les coupes en verre ou en cristal qui sont tout fins, tout fragiles, au lieu de sortir le verre habituel à jus ou à eau. On va faire les choses un peu plus poussées. On va avoir une entrée, un plat principal, une salade après, un petit dessert tout fin et tout ça, tout délicat. Mais c'est pour montrer le respect dans ton service par rapport à Dieu. Est-ce que tu lui sers une grosse platée de je sais pas trop quoi, ou tu t'arranges pour que la présentation, pour que la chose qui constitue le plat que tu lui présentes soit agréable ou non? Est-ce que c'est un peu comme le bagnard qu'on voit parfois dans des films de prisonniers où il y a l'espèce de plat de fèves qu'on lance dans l'assiette puis ça éclabousse tout le monde? Est-ce que c'est comme ça que tu sers Dieu ou tu lui donnes ton meilleur? Quand on va parler de la crainte de Dieu, dans ton service, est-ce que tu exprimes cette crainte? Est-ce que tu exprimes ton respect envers Dieu par la qualité non seulement de ce qui constitue ton offrande, mais aussi par la qualité de la manière dont tu apportes ton offrande? On dit parfois que si vous ne voulez pas donner une offrande, ne la donnez pas, et si vous ne donnez pas votre offrande avec joie, ne la donnez pas, parce que le Seigneur ne reçoit que si c'est donné avec joie. Ça veut donc dire que si tu prends tes offrandes et pour toi c'est de la flagellation de la part de Dieu, de l'abus par rapport à Dieu, et tu le prends simplement comme si il était en train de te tordre le bras dans le dos, ben on préfère te dire ne donne pas. Par contre, si pour toi c'est une joie de contribuer à l'avancement du service de Dieu, à l'avancement de l'œuvre de Dieu, à ce moment-là, tu vas venir avec joie en disant hey, « j'ai une part à jouer dans l'avancement du royaume de Dieu. Il m'accorde ce privilège de pouvoir aider à l'avancement de son royaume et tu viens donner avec joie. » Donc, ton offrande dans ta vie de tous les jours, dans ton service, se fait-elle de façon honorable, de façon respectueuse envers Dieu? Lorsqu'on parle par la suite de ce qui craint et qui pratique la justice, qui lui sont agréables, deux termes ici qui vont venir, adéquat, donc quand quelque chose est juste, quand un calcul mathématique est juste, quand une réflexion est juste, c'est que cette réflexion est adéquate. Ton service est-il adéquat par rapport à Dieu, par rapport à ses attentes, par rapport à son appel, par rapport à l'investissement, au don qu'il a mis en toi et par rapport aux besoins vers lesquels il t'a envoyé? Ton investissement, ton travail, ton service est-il adéquat par rapport à Dieu? Et enfin, lorsqu'on parle de ce qui est juste, ce qui est juste, c'est ce qui doit être fait. Lorsque tu circules sur l'autoroute et que tu vois le panneau qui met 100 km à l'heure, c'est que logiquement, tu ne dois pas rouler à plus de 100 km à l'heure. Donc, si tu roules à 105, à 110, à 115, et je sais que la plupart d'entre nous, on le fait, ben on est en infraction par rapport à la loi. Ça veut dire que si un policier vient et nous arrête, on ne peut pas se plaindre. Même si on lui dit hey, « je roulais simplement 5 km au-dessus », mais c'est 5 km au-dessus de la loi. Donc, par rapport à Dieu, es-tu obéissant par rapport à sa loi ou es-tu donc désobéissant par rapport à sa loi? Es-tu en train de servir Dieu tel qu'il le veut, comme il le veut, pour les raisons qu'il le veut, avec l'attitude qu'il le veut, ou es-tu en train tout simplement de faire à ta tête? Peut-être en ne le servant pas, peut-être en le servant mais avec la mauvaise attitude, peut-être en le servant avec le mauvais objectif. La Bible nous dit que certains vont servir Dieu simplement pour s'engraisser le ventre et qu'ils sont déjà rémunérés, ces gens-là. Mais est-ce que tu sers le Seigneur comme un gain à aller chercher? Est-ce que tu sers Dieu pour un salaire? Est-ce que tu sers Dieu pour une rémunération qui viendrait éventuellement sur toi? Ou tu sers Dieu parce que tu l'aimes, parce que tu veux l'honorer, parce que tu veux lui être obéissant, parce que tu veux le satisfaire, parce que tu veux le réjouir, parce que tu veux lui être plaisant, parce que tu veux être déclaré bon à ses yeux, parce que tu veux être agréable à Dieu. Alors, comment tu sers? Pourquoi tu sers? Tout cela vient se placer devant toi ce matin comme de grandes questions avec lesquelles je te laisse ce matin. Alors, on va prier simplement pour rendre grâce au Seigneur pour ce matin. Et puis, après ça, on va se laisser. Alors, merci Seigneur de ce que tu nous parles encore aujourd'hui, de ce que tu nous amènes à réfléchir sur notre service. Qu'est-ce qu'on fait pour toi? Comment on le fait pour toi? Pour quelles raisons on le fait? Quel est l'objectif profond de notre travail? Est-ce que c'est pour t'être agréable, pour faire avancer ta cause, pour être plaisant à ton regard? Est-ce que c'est pour te réjouir? Est-ce que c'est pour te satisfaire? Est-ce qu'on le fait avec tout le respect qui se doit? Respect envers toi, respect aussi envers les gens vers qui on a été appelé à servir, puisque ces gens-là sont importants, puisque tu es mort pour eux. Alors, quel est le respect qu'on affiche lorsqu'on te sert? Est-ce qu'on te sert de façon adéquate? Est-ce qu'on répond à tes attentes? Est-ce qu'on répond à l'investissement que tu as fait en nous, de par les dons et les talents que tu as placés en nous, mais aussi de par la grâce que tu as su manifester envers nous? Est-ce que notre réponse à cette grâce, notre réponse à cet investissement est adéquat? Et enfin, Seigneur, est-ce qu'on t'est obéissant? Est-ce qu'on fait le travail que tu nous demandes de faire? Est-ce qu'on le fait de la manière que tu nous demandes de le faire? Est-ce qu'on le fait pour les raisons pour lesquelles tu nous demandes de le faire? Seigneur, c'est toi qui connais nos cœurs. Et assurément, aucun d'entre nous n'est parfait encore aujourd'hui. Mais je sais, Seigneur, que tu nous parles. Paul va dire à la fin de sa vie qu'il a combattu le bon combat. Donc, qu'il a couru la course et que la couronne lui est destinée. Il va dire à Timothée qu'un athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu selon les règles. Ça veut donc dire que Paul était conscient d'avoir combattu selon les bonnes règles. Seigneur, personne d'entre nous ne sait quand on te fera face et quand on devra te rendre des comptes dans notre passage vers l'éternité. Mais je prie, Seigneur, que nous puissions terminer notre course comme Paul l'a terminée, en sachant que la couronne lui était maintenant réservée parce qu'il avait combattu le bon combat et il avait couru la course selon les règles. Alors je prie pour ma sœur qu'elle combatte le bon combat pour être trouvée bonne et fidèle comme servante. Je prie pour mon frère qu'il combatte le bon combat afin d'être trouvé un bon serviteur et un bon et fidèle serviteur lui aussi. Seigneur, parle à chacun d'entre nous. Parle-moi personnellement. Parle à ma sœur, parle à mon frère, pour que nous puissions vivre une vie qui t'est agréable. Seigneur, qu'on te soit agréable dans notre vie personnelle, qu'on te soit agréable dans notre vie de couple, qu'on te soit agréable aussi dans notre vie de famille. Tu nous permets d'avoir le souffle de vie pour qu'on accomplisse ta volonté. Seigneur, nous sommes unis avec un homme, avec une femme, pour accomplir ta volonté. Seigneur, tu nous as donné des enfants pour accomplir ta volonté. Alors je prie, Seigneur, qu'il en soit ainsi pour nous tous, que nous cherchions à entendre ta voix et que nous cherchions à nous soumettre à ta volonté et à répondre à tes attentes, Seigneur, envers chacun d'entre nous. Bénis ma sœur, bénis mon frère, parle-nous aujourd'hui et garde-nous dans ta présence. Nous t'avons prié dans le précieux nom de Jésus. Amen. Alors voilà ce que nous avions pour ce matin. Je vais voir si je peux saluer quelques personnes. Comme je vous dis, il y a difficulté de connexion pour certains, je crois, depuis quelques jours. Donc, bonjour à Jocelyne et à Jacques. Bonjour à Charlotte. Bonjour à Denise, cette fois-ci Denise Gaudreau de Laval. Bonjour à Yaoi et à toute sa petite famille. Bonjour à la sœur Florie, au frère Louis. Bonjour à Nadège. Qui d'autre? Bonjour à Maggie. Bonjour à Aniris. Bonjour à Argelia. Et je crois que c'est tous les autres. Je vous ai salué un peu plus tôt. Sinon, je ne vois pas votre nom apparaître, malheureusement. Alors, sur ce, voilà. C'est tout pour aujourd'hui. Notre prochain rendez-vous, donc demain matin, 8h30, pour notre prochaine bénédiction matinale. D'ici là, ben, passez une bonne journée. Servez bien Dieu. Soyez agréable au Seigneur et que sa grâce vous accompagne en tout instant et en tout lieu aujourd'hui. Bonne journée à tous, au revoir.